cheval entre dans un bar de David Grossman, enregistré en public les 9 et 10 septembre 2017 à la Colline Théâtre National.
Nous sommes à Netanya, une petite station balnéaire en Israël, dans un club miteux. Ce soir, on vient d'un peu partout voir le comique Doval J pour un nouveau numéro de stand-up. Il est accompagné de son groupe de musiciens. Des spectateurs sont déjà installés, certains se connaissent, se saluent. D'autres entrent encore, des couples, un groupe de permissionnaires en goguette, des étudiants, des jeunes gens avec des casques de moto sous le bras. Une serveuse en strass passe entre les tables. Dans l'ombre, il y a Yoav, le tenancier qui joue le rôle d'éclairagiste. Une très petite dame avec une fleur dans les cheveux, des chaussures orthopédiques et un petit sac est assise toute seule dans un coin. Au fond de la salle, un homme, seul, que Doval J a convié spécialement ce soir. C'est le juge Avishai Lazar, son ancien ami d'école.
Mesdames et messieurs, bonsoir! Il a traversé tout le pays pour vous ce soir! Il est beau comme un camion, il est chaud comme la braise, il a mis sa plus belle chemise! Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements!
Ville de Césarée, bonsoir! Bonsoir! Bonsoir!
Attends, stop, pardon, là, j'entends pas bien. Quoi,
pardon, on n'est pas à Césarée, là? Joseph, je me suis encore fait baiser par mon agent.
C'est Netanya ici.
Quoi? Tu dis quoi? Ouais, vous, là, madame. Oh, madame, table 7. Et félicitations pour les lèvres, franchement. Ouais, oh, c'est sublime, hein? Non. Compliment pour le chirurgien, ça marche bien le botox, hein? Non, sérieux, ma belle, vous avez le culot de me dire comme ça, là, au déboté, que je comprenne bien, que je me trouve dans la ville de Netanya sans gilet pare-balles. Dis-moi, table 7, faut qu'on cause, toi et moi, tu m'as l'air d'une jeune fille, comment dire, de bonne famille, hein, plutôt classe, quoi. Alors explique-moi, ma chérie, comment une fille intelligente comme toi peut ignorer le tact, tu vois, la subtilité. On prépare le terrain avec une demi-portion comme moi. T'as vu, regarde, rien que la peau sur les os. Du cartilage pour l'essentiel. Non, sérieux, si j'étais un cheval, on m'aurait déjà transformé en colle alimentaire, pas vrai? Tu vois, chouchou, une information comme celle-là, on s'y prend à deux fois avant de la balancer. Pourquoi vous riez là-bas, bande de demeurés, là? On vous a pas dit que vous êtes juste là pour chauffer la salle avant l'arrivée du vrai public? Entre nous, mes frères, là, maintenant, je devrais mettre la main sur le cœur pour vous dire à quel point je suis red dingue de cette bonne ville de Netanya, hein. Ouais, normalement, c'est comme ça que ça se passe, hein. Combien je suis fou de joie d'être parmi vous ce soir dans votre zone industrielle enchanteresse, hein, pour vous débiter une série de blagues cochonnes, hein, c'est ça, normalement, hein, c'est vrai, hein. Eh ben non, tout ça, c'est faux, tout ça, c'est du pipeau, à part le cul, parce que la vérité, je vais vous la dire, votre ville, là, Netanya, je peux pas la blairer, non. Ce Netanya de mes deux, il me fait flipper à mort. Sans déconner, sur trois passants que je croise, le premier, il a l'air d'un criminel. Le second, il a l'air d'appartenir à un programme de protection des témoins. Et le troisième, d'un cadavre tassé dans le coffre de la voiture du premier. Croyez-moi, si j'avais pas payé des pensions alimentaires à trois charmantes ex-épouses et 5 enfants. 5. Comme les doigts de la main de Fatma. Je vous jure, vous avez devant vous le premier homme dans l'histoire à avoir écopé d'une dépression post-partum au moins 5 reprises, plutôt 4 vu qu'il y a des jumeaux. Non, en fait, 5, si on compte ma propre dépression post-partum après avoir été accouché. Et malgré tout, on peut tirer quelque chose de positif de tout ce bordel. Netanya, ville de contraste. Parce que sans mes petits vampiros dans le lait, ben non, il n'y aurait pas moyen de m'attirer ici pour un cacheton de quoi 750 shekels que Yoef me paye au noir, sans facture, ni bonjour, ni merde. Allez, mes frères, mes millions! On va quand même en profiter de la soirée, hein! On va grimper au rideau! Allez, applaudissez dès demain! Sa Majesté Netanya!
Alors écoutez, mes frères, gens de Netanya, vous imaginez pas à quel point vous êtes chanceux, parce qu'aujourd'hui, là, pile, il se trouve que c'est mon anniversaire. Merci, merci, non, franchement, merci du fond du cœur. Oui, non, ça va, merci. En fait, en ce jour-là, il y a 57 ans de ça, le monde est devenu un peu plus inhabitable, je veux dire, à cause de moi. Non, fallait pas, vraiment, c'est beau de votre part. Alors, vous pouvez déposer vos chèques à la sortie, les billets, vous pouvez me les coller sur la poitrine à la fin de la présentation. Et les bons pour une nuit d'amour gratuite, bah, vous pouvez me les refiler tout de suite, comme ça. De la main à la main. Qui parmi vous a déjà 57 ans? Allez, la main. Waouh, c'est impressionnant, Netanya. Hein, compliment pour la longévité. Hein, c'est pas évident d'arriver à cet âge-là chez vous. Hein, hein. Yoav, un projecteur sur le public qu'on voit un peu. Non, j'ai dit 57 ans, madame, pas 75. Hein. Allez, alors, minute, pas tous en même temps, les amis. Il y aura du dovalé pour tout le monde. Alors, oui, la 4. Qu'est-ce que vous avez dit?
57 ans, bientôt 58.
Waouh, vous aussi 57, ça, c'est impressionnant. Hein. Franchement, bravo, vous êtes en avance sur votre temps. Hein. Et c'est quand vous dites...
Demain.
Demain? Wow, tous mes voeux. Comment vous vous appelez?
Yoraï.
Yo quoi?
Yoraï.
Yoraï. Tu te fous de moi, là?
Non, non.
C'est ton nom, ça?
Ouais.
C'est ton nom ou c'est celui d'une formation spéciale de l'armée? Waouh, mon frère, ils t'en ont fait une sacrée blague, tes parents, pas vrai? Et celle-là qui est à côté de toi, mon frère, là, celle-là. C'est Madame Yoraï, hein?
Ouais.
Eh ben, tiens bon, mon frère. Bonsoir à toi, Madame Yoraï.
Bonsoir.
Ça va? Dis-moi, ma belle, entre nous, là, tu crois vraiment que toute ta ferraille de collier, de bracelet, ça suffira à camoufler ton triple menton? Dans une période de vache maigre comme aujourd'hui, ça te paraît sérieux, toi? Madame, rien qu'avec la peau de ton jabot, on pourrait faire toute une rangée de tentes d'indignés sur le boulevard Rothschild. Au fait, Netanya, puisqu'on en est arrivé à parler de théorie économique, je veux le souligner pour éviter tout malentendu, je suis un fervent partisan d'une réforme globale des marchés financiers. Ouais, ouais, en fait, je suis un génie. Je suis un vrai génie, hein, Joseph? Écoutez, depuis un moment, j'ai acquis la conviction qu'il faut imposer les contribuables en fonction de leur poids, voilà, de la livre de chair. Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime que ça, hein? Eh, dites-moi! Une taxe progressive sur la chair! C'est ça que je veux. Une imposition fixée en fonction des poignées d'amour, du bide, du cul, des bourrelets, de la cellulite, des tétons flasques pour les hommes, hein? La culotte de cheval pour les femmes! Et ce qu'il y a de chouette avec mon idée, c'est qu'on peut ni tricher, ni financer. T'as grossi, tu payes. Pardon, attends, stop. Excusez-moi, parle plus fort, table 9. Parle sans t'émouvoir. Je paye pour la conversation.
Je disais, c'est une blague, c'est pas ton anniversaire.
Non, c'est pas une blague, Gargamel, c'est vraiment mon anniversaire. Ah, ça fait 57 ans, pile à cet instant précis, ou presque, hein, que ma maman, Sarah Greenstein, s'appelait, elle a accouché de votre serviteur à l'ancien hôpital de Jérusalem. Voilà, c'est pas croyable, mais sérieux, c'est comme ça. Voilà. Cette femme prétendait vouloir mon bien, et pourtant, pour toi, elle m'a mis au monde. Pensez au nombre de séries policières, d'enquêtes, d'arrestations, de procès pour homicide. Mais moi, j'ai jamais entendu parler d'un procès pour naissance. Pourtant, ni pour naissance avec préméditation, ni pour naissance sans intention de la donner, ou alors par accident, pas même une action pour incitation à la naissance. Et n'oublions pas que, circonstance aggravante, la victime était mineure. Est-ce qu'il y a un magistrat dans la salle? Je veux dire, un avocat? Ouais, ben dehors. Maintenant, à propos de ma mère, voilà, je vous demande un petit peu d'attention, mesdames et messieurs les jurés, c'est une affaire d'une importance capitale. Les mauvaises langues prétendent que, quand on m'a déposé dans ses bras, ma mère a souri. Peut-être même de joie.
Non, en fait, là, je déconne. Ça, c'est pas du tout possible. Pardon, maman, pardon, je te dénigre. Je te trahis encore une fois. Ouais, je suis la pute du public. Je suis irrécupérable. Blague à part. Ma mère, c'était la plus belle femme du monde, je vous jure. On m'a fabriqué plus des classieuses comme ça, avec des yeux bleus immenses. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, elle était aussi la plus détraquée, la plus triste du monde. Voilà, c'est comme ça, c'est la loterie de la vie, je me plains pas. Ah, vous voulez que je vous raconte une histoire? Alors, il était une fois, j'avais peut-être 12 ans, je me suis mis en tête d'aller inspecter ce qui s'était passé 9 mois avant ma naissance. Savoir ce qui avait tellement allumé mon père pour qu'il se déchaîne comme ça sur ma mère. Et croyez-moi, des signes d'activité volcanique, il n'y avait pas beaucoup dans son pantalon jusqu'à moi. C'est pas qu'il aimait pas ma mère, non, mais pour ce qui est de la toucher au sens propre, hein, comme un homme touche une femme, même petite caresse sur le cul, comme ça, le couloir, ça, je vous jure que je l'ai jamais vu. Alors, dites-moi, mes frères, vous qui êtes des personnes intelligentes, puisque vous habitez Netanya, hein, expliquez-moi pourquoi il la touchait pas. Expliquez-moi. Hein. Non, les voix du Seigneur sont impénétrables, mais bon, vraiment. Non, sérieusement, Netanya, vous voulez vraiment entendre les exploits mirifiques de ma famille royale? Dites donc, ça serait pas que vous chercheriez à percer le mystère de ma personnalité magnétique? Vraiment, vous pensez que vous allez réussir là où tous les chercheurs, tous les biographes ont échoué? Vous avez vraiment, vraiment envie de vous taper maintenant la série télé sur la dynastie Grinstein? Alors, vous êtes vraiment mes frères? Nous sommes tous frères, citoyens de Netanya, fédération des villes jumelées. Donc, pour terminer cette histoire et commencer la soirée, laquelle est bientôt terminée, je vous rassure, votre serviteur est allé inspecter le calendrier. Il est remonté 9 mois en arrière à partir de l'accouchement. Il a trouvé la bonne date et il s'est précipité sur un tas d'exemplaires du Herut, le canard que mon papa collectionnait, hein, la bible des générations futures. Et là, à cette date précise, 9 mois avant que je fasse une percée, hein, que je modifie l'équilibre écologique, sur quoi votre ami met-il son doigt, d'après vous? Pile sur le début de la campagne du Sinaï. C'est dingue, non? Gamal Abdel Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez, il nous le ferme à la gueule. Et mon père, Ezekiel Greenstein de Jérusalem, 1m59, venu comme un singe, avec des lèvres de fille, sans hésiter une seconde, il part le rouvrir, le canal! Il se tape ma mère! Je suis comme des représailles vivantes, si on y réfléchit bien, hein? Figé? Le premier prix à payer, en fait, c'est moi. Ah, vous avez compris ça?
Devalet m'avait téléphoné à peu près 2 semaines avant cette soirée de stand-up. Il était, je crois, 11h30 du soir. Je revenais tout juste d'une promenade avec ma chienne. Il s'est présenté. Sa voix était tendue, solennelle. Il s'est emmêlé les pinceaux et m'a demandé si c'était bien moi, Avishai Lazar. Et si son nom ne me rappelait rien? Je lui ai répondu non.
Ça me fait de la peine, j'étais persuadé que tu te souviendrais. T'inquiète pas, je serai bref, je suis toujours bref, 1m60 à peine. Quand je mourrai, on m'enterra dans le carré des petits hommes.
Qu'est-ce que tu me veux?
J'ai un service à te demander. T'écoutes et puis tu décides. Si tu dis non, pas de problème, sans rancune. Ça te prendra pas beaucoup de temps, seulement une soirée. En plus, c'est moi qui régale.
Je me suis assis à la table de la cuisine, la laisse de ma chienne encore à la main. Et je me souviens d'avoir regardé mes souliers. Quelque chose dans leur façon de converger l'un vers l'autre m'a saisi soudain à la gorge.
Je m'excuse vraiment pour mon intrusion dans ton existence. En fait, j'espérais en souvenir du bon vieux temps, tu vois, de notre jeunesse. En fin de compte, je pourrais dire qu'on a fait nos débuts ensemble. Et toi, sans en avoir l'air, t'as suivi ton petit bonhomme de chemin. Mes compliments, respect.
Écoute, l'explication, elle va prendre une minute, pas plus. Une minute de ta vie consacrée à moi. Ça marche ?
En souvenir du bon vieux temps. J'ai fermé les yeux pour fouiller dans mon passé.
Dis-moi, tu le fais exprès ou tu te prends trop sérieux pour... Comment tu peux ne pas te souvenir ?
Cela faisait une éternité qu'on ne m'avait pas parlé sur ce ton. Et c'était comme si un souffle d'air frais se déversait sur moi.
Comment on peut ne pas se souvenir de trucs comme ça ? Rappelle-toi, on a étudié chez ce Kladczynski une année entière à Bayt Vegan. Après, on repartait ensemble à pied jusqu'à l'autobus.
Petit à petit, les choses se sont remises en place et je me suis souvenu de l'appartement exigu, sombre, même en plein midi. Et puis, vous voyez, je me suis rappelé le professeur sinistre, un professeur immense, maigre et voûté qui semblait écrasé par le plafond. Nous étions un groupe de 5 ou 6 sous-doués en maths venus prendre des cours particuliers chez lui. Devalet a continué, mais j'entendais sans écouter. Dans la cuisine, mes yeux passaient en revue ce qu'il y avait à réparer, à badigeonner, à graisser, à obturer. Tamara aurait appelé ça la prison du quotidien.
Tu m'as gommé. Tu m'as gommé intégralement de ta mémoire.
La chaleur de sa voix s'est imposée à moi et cette chaleur a fait revivre dans des contours de plus en plus nets l'enfant au teint clair, aux joues criblées de taches de rousseur, un garçon court sur pattes, maigrelet, à lunettes, avec des lèvres charnues, protestataires, impatientes, un enfant à la voix éraillée, au débit précipité. Je suis désolé, je me souviens de toi, bien sûr.
J'en étais venu à croire que t'étais une fiction. Comme mes personnages.
Bonsoir, beauté exceptionnelle de Netanya. Je vous connais les filles, je vous connais de l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Joseph, j'en étais où?
Attends, de Schmalz, l'histoire juive.
Non, je vais pas la raconter celle-là, non. D'ailleurs, si vous me permettez une petite digression, je dois dire que le nouvel antisémitisme, ça m'énerve profondément. Sérieusement, moi, je m'étais habitué à l'ancien, tu vois, j'avais même commencé à l'apprécier. Avec ces légendes à l'eau de rose, comme celle des sages de Sion. À propos du nouvel antisémitisme, je sais pas trop comment le dire sans offenser, hein, les nouveaux antisémites. Bon, à Dieu ne plaise, je le tente. Hein, avouez, les gars, là, vous déraillez un peu, là, non? Franchement. Moi, je me dis, hein, si un scientifique israélien, hein, juif, juste pour donner un exemple, il découvrait un remède contre le cancer, hein, un remède qui pourrait éradiquer une fois pour toutes la maladie, eh ben, je vous garantis à 100% qu'il y aurait des voix qui s'élèveraient aussitôt dans le monde entier. Ah, il y aurait des protestations, hein, il y aurait des manifestations, il y aurait des votes à l'ONU, des articles dans la presse européenne. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en prend comme ça au cancer? Pourquoi ? Pourquoi ne pas tenter la voie du compromis ? Pourquoi le recours immédiat à la force ? N'oublions pas qu'il y a aussi des aspects positifs au cancer. Ah, oui. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui vous diront que le cancer les a rendus meilleurs. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a au fond chez l'homme de supérieur au cancer qui lui donne le droit de l'éradiquer ?
Donc, ladies and gentlemen, permettez-moi enfin de me montrer sous mon jeu officiel et assez de conjectures effrénées sur l'être mystérieux, charmant que vous avez en face de vous. Hein, Dovaleche, c'est mon nom, hein, c'est le titre, c'est le label gagnant du monde civilisé au sud de Tamanrasset. Et facile à retenir avec ça, Dovaleche. Je suis à vous les filles. Je suis tout à vous, l'objet de vos fantasmes les plus fous de maintenant jusqu'à minuit. Alors pourquoi minuit? Parce que à minuit, je rentre chez moi. Et il y aura une seule fille du coin qui aura l'honneur de me raccompagner et de s'amalgamer à mon corps velouté pour une nuit d'attouchements verticaux, horizontaux et surtout viraux. Tout ça bien entendu tant que la pilule de Viagra fera son effet, mais ça me garantit quand même quelques heures. Et ça me rend ce que le cancer de la prostate m'a ôté. Alors ouvrez la parenthèse, franchement. Non mais quel idiot ce cancer. Non sérieux.
Moi, j'ai un paquet du genre beau, tu vois. Attirant. Hein, Joseph? Non, tu l'as pas vu, mais attends, t'en as parlé. Il y a des gens, ils répliquent d'Ashkelon rien que pour les admirer. Mais voilà, c'est là-bas. Alors, je sais pas, ce cancer, il aurait pu s'en prendre, je sais pas moi, au talon, par exemple. Ou alors à mes cuisses galbées, ou à mon torse soyeux, ou à mes cheveux ondulés. Ben non. Non, il a choisi ma prostate, ce salaud de cancer. Il veut jouer à touche-pipi, quoi. Non, franchement, c'est décevant de sa part. Allez, fermez la parenthèse.
Je voudrais que tu viennes à mon spectacle, m'avait-il dit au téléphone. Après avoir réussi à se frayer un chemin dans ma mémoire rétive et avoir évoqué quelques souvenirs remontant à l'époque où nous faisions ensemble, deux fois par semaine, le trajet de Baïd Vegan à l'autobus qui me ramenait à Talpiot.
Ouais, tu te rappelles, c'est là qu'elle a commencé notre amitié. On marchait en causant sans arrêt. C'était une amitié de talkie-walkie.
C'est quoi ton spectacle?
Comment dire, je suis humoriste. Ma spécialité, c'est le stand-up.
Ah. Ouais, ce n'est pas ma tasse de thé.
Tu sais ce que c'est un stand-up? T'as déjà vu un one-man show?
Oui, quelquefois, à la télévision. Écoute, ne le prends pas mal, mais ça ne me dit vraiment rien. Écoute, je ne suis pas ton client, je n'ai aucun goût pour toutes ces blagues et ces plaisanteries, et surtout pas à mon âge, désolé.
Ok. Ta réponse a le mérite d'être claire, tu vas pas par quatre chemins. Tu veux savoir pourquoi je suis venu te chercher?
Apparemment, tu veux que j'assiste à ton spectacle?
Ouais. Ça fait déjà pas mal de temps que ça me trotte dans la tête, sans savoir, sans être sûr. Puis à la fin, j'ai pensé que t'étais le seul à pouvoir m'aider.
Je t'écoute.
Je voudrais que tu viennes me voir, que tu me regardes bien. Et après, tu me racontes.
Que je te raconte quoi?
Ce que t'as vu.
Netanya, ce soir vous allez vous éclater avec la mère de tous les spectacles. Votre fidèle serviteur face à des centaines d'admiratrices qui arrachent leur soutien-gorge. Ouais, vas-y, déboutonne ton corsage, ta blise, déboutonne, allez.
Allez, ouais!
J'en étais où, Joseph?
Anniversaire.
Ah ouais, l'anniversaire. Mon anniversaire, qui, comme chacun sait, est aussi le moment du bilan, hein. Pour quiconque est pourvu d'une conscience. Parce que moi, franchement, dans la situation actuelle, c'est vraiment au-dessus de mes moyens d'en avoir une de conscience. Non mais franchement, vous savez ce que ça représente aujourd'hui d'entretenir une âme, une conscience? Attention, c'est un article de luxe. Et je vous parle d'une âme, d'une conscience normale, pas celle à Shakespeare, à Chekhov, à Kafka. T'as lu Kafka, Joseph, toi?
Ah non.
Il paraît que c'est bien. J'ai jamais lu. Moi, j'ai rien lu. Moi. Veuillez recevoir ma bouleversante confession. J'ai une dyslexie carabinée. J'ai une dyslexie à l'état d'embryon. L'interne de service a même proposé l'avortement. Car qui suis-je? Un être inférieur, hein? C'est quoi un stand-up, vous avez pensé? Bah, je vais vous le dire, Netanya, en toute sincérité. C'est un divertissement du genre pathétique. Vous savez pourquoi? Parce que ça sent la sueur. L'effort pour faire marrer à tout prix, voilà pourquoi. Et précisément à cause de tout ça, mesdames et messieurs, j'accueille avec émotion et un profond respect le tribunal. Le juge de la Cour suprême. Avishai Lazar qui nous fait la merveilleuse surprise de se trouver parmi nous ce soir afin de soutenir publiquement par sa présence notre art minable, pathétique. Mesdames et messieurs, projecteur, la cour. C'est le moment, mesdames et messieurs, de féliciter celui que j'ai fait venir jusqu'ici. Celui qui, soi-disant, était prêt à rester toujours à mes côtés, inconditionnellement. Et même après que femmes, enfants, collègues, camarades m'eurent collectivement abandonné. Même le directeur de mon école, comme ça pour l'exemple, il m'a viré quand j'avais 15 ans pour me jeter dans la fac des sciences de la rue, disait. Et il a écrit dans son rapport, écoutez bien Netanya, de toute ma carrière, j'ai encore jamais rencontré un vieux cynique
comme cet élève. Finalement, le seul être qui soit resté avec moi, qui m'ait jamais abandonné, ben c'est moi. Et moi tout seul.
Deux fois par semaine, le dimanche et le mercredi. À 3h30 se terminait notre cours particulier chez le professeur, un orthodoxe sinistre qui parlait d'une voix nasillarde sans jamais nous regarder. Nous partions tous ensemble et aussitôt faisions bande à part, Douvalet et moi. Nous marchions en plein milieu de la chaussée dans la paisible rue principale du quartier et quand nous arrivions à l'arrêt du 12, nous échangeions un regard et disions « On continue jusqu'à la prochaine ?» Nous parcourions comme ça 5 ou 6 stations à pied jusqu'à la gare routière proche de Romema, son quartier. Et là, nous attendions l'autobus qui m'amènerait à Telpiot. On s'asseyait sur un muret de pierre et on parlait. Ou plus exactement, j'étais assis. Devalet était incapable de conserver la même position plus de quelques minutes. Il m'assaillait presque toujours de questions et moi, je racontais. Ainsi s'opérait entre nous la répartition des tâches. Il fixait le cadre et moi je m'y pliais docilement. Je n'étais guère bavard, au contraire. J'étais un garçon introverti. Peut-être par ma faute, peut-être à cause du nomadisme familial dû aux affaires de mon père, je n'avais jamais eu de meilleur copain. J'avais noué de temps à autre des liens amicaux avec des enfants de diplomates et d'hommes d'affaires qui fréquentaient mon école, mais depuis notre retour en Israël, à Jérusalem, dans un quartier et une école où je ne connaissais personne et où personne ne me connaissait, ni ne cherchait à me connaître, j'étais devenu plus solitaire et revêche. Et soudain, avait surgi ce petit bonhomme espiègle que ni ma carapace, ni ma morosité n'avaient rebuté. Comment s'appelle ta mère ? A été la première question qu'il m'a posée en sortant du cours. Et je me souviens qu'une sorte de ricanement étonné m'avait échappé. Ma mère à moi, s'est-il exclamé, se nomme Sarah. Et tout à coup, il m'a contourné, a fait demi-tour pour se placer face à moi. Comment tu y as dit que ta mère s'appelait ? Elle est née en Israël ? Où tes parents se sont-ils rencontrés ? Eux aussi ont été victimes de la Shoah. Et alors, voici notre situation. Moi, assis sur le muret, un adolescent long et mince, avec un visage étroit, sévère, une bouche ronde, évitant scrupuleusement de sourire et sautillant sur lui-même, un enfant petit, plus jeune d'une année au moins, qui avait l'art de m'extraire de ma coquille par son entêtement et aussi son astuce, qui éveillait peu à peu en moi le désir de me remémorer, le désir de parler, de raconter Guédéra, Paris et New York, le carnaval de Rio, le jour des morts à Mexico, la fête du soleil au Pérou et un vol en montgolfière au-dessus des troupeaux de gnous dans le parc national de Serengeti. Nous avons passé comme ça une année entière au rythme de 2 rencontres par semaine. Je savais qu'il devait récupérer sa mère quelque part à 5h30 tapante. Il prétendait qu'elle était un haut fonctionnaire dans un ministère quelconque. Et alors je ne comprenais pas pourquoi il devait la récupérer. Il portait une montre d'adulte de la marque Doxa couvrant la fine articulation de son poignet et plus l'heure approchait, plus il la regardait subrepticement avec une anxiété croissante. Et toujours, toujours, au moment de notre séparation, planaient au-dessus de nous des possibilités qu'aucun de nous n'aurait osé exprimer à haute voix, comme si nous ne croyions pas encore que notre amitié fragile aurait pu résister à la réalité. Et c'était des demandes du genre On pourrait peut-être se rencontrer une fois, comme ça, en dehors des cours. On pourrait peut-être aller au cinéma. Je pourrais peut-être venir chez toi.
Vous l'attendez, ça. Vu que nous avons mentionné le grand baiseur que je suis, permettez-moi, messieurs, cette fois, d'exprimer en votre nom ma reconnaissance envers les femmes, envers toutes les femmes du monde, en particulier toutes ces belles qui sont privatisées pour moi l'entreprise globale du sexe, à toutes celles qui, depuis l'âge de 16 ans, sont mises sur moi, ou sous moi, ou alors à quatre pattes, à toutes celles qui m'ont sucé. Attends, stop. Attends, là, je rêve, toi, là. Hé, toi, là, ouais, toi. La petite naine, là, tartinée de rouge à lèvres, là-bas, là. Avec ta fleur dans les cheveux, là. Hé, dis-moi, poupée, je suis là à me casser le cul pour te faire marrer. Et toi, t'envoies des textos. C'est super, ça. Non, le type, il se met en quatre, il répand son âme à tes pieds, hein, il met ses tripes à l'air, il se fout à poil jusqu'à la prostate, j'ai dit. Et toi, t'écris un SMS. On peut savoir ce que t'as de si pressé à envoyer?
C'est pas un SMS.
Arrête de mentir, chouchou, je t'ai vu, là, tic-tic-tic, tic-tic-tac. Au fait, t'es assise ou t'es debout, là? T'es tellement petite, là.
Quoi? Je m'envoyais un message à moi-même.
Tu t'envoyais un message à toi-même?
J'ai une application Note.
Continue, tu nous intéresses, chérie. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'as écrit?
C'est privé.
C'est privé, hein. Et quelle est la profession, si je peux me permettre, hein, qu'exerce notre personne si privée et si discrète?
Je suis manucure.
Oh, French manucure, s'il vous plaît.
Je suis aussi médium.
T'es quoi, médium? Mesdames et messieurs, un peu d'attention, je vous prie, nous avons parmi nous ce soir, à titre exceptionnel, une manucure qui est aussi médium. Franchement, applaudissez. Hein. Tapez des mains, tapez des ongles. Médium, tu veux dire que tu communiques avec d'autres mondes?
Non, en ce moment seulement avec des âmes.
Les âmes des personnes défuntes?
Oui.
Ah ouais? Tu viens de quel coin d'Israël, race bitume?
Je vous défends de m'appeler comme ça.
Pardon.
En ce moment, je suis d'ici, près de Netanya. Mais quand j'étais petite, j'étais ta voisine. Oui, Aromema. Je t'ai reconnue dès que tu es entrée. Tu n'as pas du tout changé.
J'ai pas du tout changé, t'es sûr que c'est moi?
Sans aucun doute. Tu es l'enfant qui marchait sur les mains. Tu marchais toujours sur les mains. Et tu suivais la femme avec les grosses bottes. J'étais petite. Je n'avais que 8 ans et demi. Et toi, tu en étais peut-être déjà à ta bar mitzvah. Et toujours, tu marchais sur les mains. Tu me parlais même dans cette position, d'en dessous.
Ça, c'était seulement pour regarder sous ta jupe.
Non, c'est faux. Tu m'as adressé la parole 3 fois. Et en plus, je portais une jupe longue, la bleue à carreaux. Et je t'ai parlé aussi, même si c'était interdit.
C'était interdit? Pourquoi c'était interdit?
Peu importe.
Non, ça importe. Dis-moi juste ce qu'on te disait sur moi.
Que tu étais anormal. Mais moi, j'ai quand même parlé avec toi 3 fois. La première fois, tu m'as dit qu'on s'était déjà rencontrés.
Où ça?
Tu m'as dit que chaque événement de ta vie se répétait.
Tu te souviens que j'ai dit une chose comme ça?
Et tu as dit aussi qu'on avait été ensemble des enfants pendant la Shoah, ou au temps de la Bible ou de la préhistoire. Tu n'étais pas sûre. C'est là qu'on s'était rencontrés pour la première fois. Dans cette vie-là, tu étais un acteur et moi, une danseuse.
Oula, oula, oula. Mesdames et messieurs, nous avons ici, à titre exceptionnel, un témoignage de première main sur votre humble serviteur quand il était petit. Je ne vous l'ai pas dit ça, hein, l'idiot du village, l'enfant débile, est-ce que je veux dire, celui qui fricote avec les petites filles, le pédophile. En plus, il se fait son cinéma, voilà, ensemble pendant la Shoah, ensemble au temps de la vie.
Assez ! Tu étais le meilleur. Et tu ne m'as jamais appelé la naine. Et tu ne m'as pas emmenée dans l'entrepôt comme les autres. Tu m'as surnommée la puce, et c'était gentil. Tu te souviens ?
Non.
Qu'est-ce que tu es devenu ? Tu étais un gentil garçon dans ton enfance.
Tu sais, Bécasse, je pourrais te poursuivre pour atteinte à ma mauvaise réputation. Netanya, mon chouchou, vous êtes un public formidable, allez ! Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes trésors, c'est pas simple, hein, c'est pas simple d'arriver à l'âge de 57 ans, et pire d'être un survivant, on vient de l'entendre, de la Shoah, des temps bibliques. Allez roulez, jeunesse ! Ouah, merci d'être là, on va passer une soirée d'enfer. Ouah, vous êtes venus des quatre coins d'Israël, je vois ici des gars de Jérusalem, des gars de Bercheva, de Rachéine. Mais alors c'est qui est resté à la maison pour cogner les Arabes ? Ah, pardon, directeur, pardon. Pardon, mon chéri, pardon. Regarde comme il tire la gueule. Non, promis, plus de politique. Promis, juré, je sais, ça m'a échappé. Non, rien. Pas de politique, pas de territoire occupé, pas de Palestiniens, pas de monde extérieur, pas de réalité. Voilà. Même pas deux colons qui se baladent dans la casbah de Hébron. Allez, il va, c'est chic. Chic, juste une, là, c'est la dernière. Juste une. Voilà, un moment, les gars. Celle-là, elle va vous plaire. Voilà, alors, écoutez bien, il y a un arabe, déjà ça fait rire, il se balade à côté de deux colons dans la casbah. Bon, on l'appellera Mohamed, hein, l'arabe, c'est un nom générique. Tout à coup, il y a un haut-parleur de Tzal annonce que le couvre-feu pour les arabes va commencer dans 5 minutes. Un des colons, il épaule son fusil et il tire une balle dans la tête de Mohamed. L'autre, il est un peu étonné, il demande « Hey, qu'est-ce qui te prend, Tashmish Kodesh ? Pourquoi t'as fait ça ?» Et l'autre, Tashmish Kodesh, il répond « Écoute, je sais où il habite, il serait jamais arrivé à temps chez lui. » Tu vois, il s'est rien passé, hein, mes frères ? Et vous voulez savoir, le plus grand problème des gauchistes, là, c'est leur manque d'humour, bien sûr. Hein ? Non, bah, vous avez déjà vu un gauchiste qui sait rire ? Je vous mets ma main au feu qu'il n'y en a pas. Même quand il est seul, un gauchiste, il rigole pas. Et en général, il est seul. Vous avez imaginé comment serait le monde sans les gauchistes ? Alors fermez les yeux. Allez, on ferme les yeux tous. Fermez les yeux, Netanya, mon chouchou. Et imaginez un instant un monde où tout, mais tout serait permis. Tout ce qui vous passe par la tête. Pas de carton jaune, pas de carton rouge, pas de gueule d'enterrement à la télé, pas d'article dans le journal à vous donner un ulcère. La personne pour vous casser les couilles du matin au soir depuis des années avec ces territoires, là, occupés ou pas. Fini les juifs de la haine de soi. Des blagues sur les gauchistes, c'est pas considéré comme de la politique, hein, pas vrai ? Non, ça c'est du factuel, ça. Hein. On en est où ? Tu voudrais voir des Arabes danser un barrage ? Ok, check. Un seul mot de toi et voilà qu'ils se mettent à danser, à chanter, à se déshabiller. Voilà, oh, la joie de vivre chez ce peuple si exotique. Comme ils sont spontanés, ça doit être dû à l'ambiance spéciale qui règne au barrage. Comme ils aiment chanter en chœur l'hymne israélien. Hein ? Du cœur, l'âme juive vire, comme au fond du cœur. Allez avec moi, l'âme juive vire, comme au fond du cœur. L'âme juive vibre. Et comme ils redécouvrent leur côté féminin, regarde. Bonjour, bonsoir. Elles baissent leur garde frontière. Bonjour, bonsoir. Elles baissent leur garde frontière. Hey, avec moi. Bonjour, bonsoir. Hey, baissent leur garde frontière. Hey, hey. 1, 2, 3, 4. Bonjour, bonsoir. Baissent leur garde frontière.
Oh, ça vous dirait de boucher les plis palestiniens pour le petit déjeuner, brave Jean? Hein? La bonne fée vous donne sa baguette magique pour une semaine.
Wow!
Pour 50 ans! Vous avez déjà joué au Monopoly des expropriations? Au poker couvre-feu? À la belote barrage? Vous avez peut-être envie d'un bouclier humain ou alors de couper l'électricité ou d'interdire les routes aux Arabes? Tout est possible! Tout est permis! À vous de jouer, mes agneaux! Jouissez! Jouissez de vos rêves! Chut.
Mais attention, attention, hein. La baguette magique, c'est pas pour toujours. Hein. Oh merde, oh putain, il y a un bug. Il s'avère que la bonne fée, elle est lunatique. Ouais. Elles sont comme ça, les fées. Un beau jour, elles exaucent tout à l'envers. Et alors, waouh, surprise. C'est nous qui vont chanter leurs hymnes à leur barrage à eux. Hein? Biladi, biladi, ma patrie... Ou alors, juif, souviens-toi de Khaïbar. Juif, souviens-toi de Khaïbar. L'armée de Mahomet est de retour. Allez, chante avec moi, brave Jean. Libre comme l'oiseau. Juif, souviens-toi de Khaïbar. Juif.
D'accord. On arrête. D'ailleurs, c'est même pas la peine d'y penser. On a bien le temps avant que ça me tombe sur la gueule. Ça, c'est pour la génération de nos enfants, ça. C'est leur problème. Qui c'est qui leur a conseillé de rester ici, de ruminer toute autre merde accumulée? Alors, à quoi bon se faire la guerre? Penser à tout ça? D'ailleurs, à quoi bon penser tout court? Allez, applaudissons le fait de ne pas penser.
Dovalet avait insisté pour que je vienne à son spectacle. Et pendant toute la soirée, il avait cherché mon regard. Et toute cette histoire d'invitation, c'était un traquenard, une vengeance privée. Et je m'étais fait avoir comme un idiot. « Je veux que tu viennes à mon spectacle », m'avait-il dit au téléphone.
« Tu n'as rien d'autre à faire que t'asseoir, une heure et demie, deux heures max. Si tu veux, tu peux m'enregistrer, me prendre en photo avec ton portable, peu importe. L'essentiel, c'est que tu me vois. »
Et après ?
Après... Après, si tu le souhaites, hein, tu me passes un coup de fil et puis tu me dis ce que t'auras vu.
Mais dis-moi, à quoi ça va servir?
Rien. C'est pour moi, je sais pas. Je sens que c'est le moment. Je voudrais entendre, si tu veux bien, entendre de quelqu'un comme toi, Vichai, de quelqu'un d'expérimenté, je veux dire, hein, qui a passé toute sa vie à regarder les gens droit dans les yeux, à les capter de la tête aux pieds en l'espace d'une seconde.
T'exagères.
Non, je sais de quoi je parle. J'ai suivi dans la presse les procès que t'as présidés, on a reproduit tes arrêts, effilés, comme une lame de couteau.
Mes arrêts, je les fignolais jusqu'à la conclusion. Et je les parsemais de quelques métaphores fleuries ou de citations de Pessoa, de Cavafi. J'étais très fier de mes arrêts, mes œuvres modestes et destinées à l'oubli. Et là, une image surgit en moi. Tamara, il y a environ 5 ans. Assise, une jambe repliée sous elle, une tasse de thé à la menthe à côté d'elle. Et elle relit avec soin les pages que j'ai écrites.
Crois-moi, Avishai, votre honneur, comment il faut t'appeler? J'ai l'œil pour ce genre de choses.
Mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Tu veux quoi? Un verdict? Rien que pour toi. Tu veux que nous pratiquions une mini-privatisation du système judiciaire? C'est ça? Un juge à domicile? Pas mal?
Non, un verdict pour quoi faire? Non, tu viens seulement à mon spectacle, tu t'assis au fond. Et tu me regardes un peu, pas plus, hein, vraiment pas plus. Et après, tu me dis... Mais tu me dis, sans ménagement, ce que tu penses. C'est ça qui m'importe. 2-3 phrases, comme tu sais les tourner. Je t'ai pas choisi pour des prunes. T'es doué pour exécuter quelqu'un en une seule phrase.
Mais 2-3 phrases sur quoi?
Imaginons que tu parles de ce quelque chose que j'ai. C'est cette chose-là que l'homme transmet sans s'en rendre compte. Qu'il est peut-être le seul à posséder.
Si je fais ce que tu me demandes, Dovalet, et je n'en suis pas encore sûr, Tu dois savoir que je ne t'épargnerai pas.
Je savais que je frappais la bonne porte. Et souviens-toi, un seul coup, droit dans le cœur.
Tania, je vais vous offrir ce soir une exclusivité, une tranche de vie, quoi, un morceau de choix. À vous tous rassemblés ce soir pour ma fête, j'ai décidé de faire cadeau d'une petite soirée souvenir. Quelque chose qui vient du cœur, je suis comme ça, moi. L'histoire que je vais vous raconter, mes frères, je vous le jure, je ne l'ai jamais racontée en public, à personne. Et voilà que d'un coup, cette nuit, ça me prend. Vous n'avez pas peur, hein ? Tant mieux, c'est mieux pour vous. Mais il faut être avec moi maintenant, Netanya. Et toi aussi, la médium. Écoute bien parce que dans cette histoire, il y a, comment dire, il y a un esprit. Un fantôme. Oyez, oyez, mes frères, mes sœurs, l'histoire hilarante de mon premier enterrement. Mon premier enterrement! Bravo, Netanya Sud, on vous parle d'enterrement et tout de suite, vous bidonnez, hein, les 10 Macbeth, là. Je comprends pas ces gens, là, vous êtes des êtres sans cœur, ils sont froids comme des Ashkénazes au mois de janvier. Ma sœur, je demande du sérieux. On parle de mort, madame. Parle de mort! De la mort! Applaudissez la mort! Applaudissez la mort! C'est la fête! Ouais!
Deux valets délire et saute comme un diable hors de sa boîte, couvert de sueur. C'est comme s'il avait sombré dans la folie. Et là, je voudrais crier avec lui, le cœur chaviré. Mais pourquoi ne pas oser, pourquoi ne pas prendre congé de moi-même et de mes yeux toujours pleins de larmes? Pourquoi ne pas crier, moi aussi, applaudissez la mort! La mort qui est parvenue à m'arracher en 6 semaines le seul être que j'ai aimé dès l'instant où j'ai vu son visage, Tamara.
Triomphe, mort! Emporte-nous! Laisse-nous rejoindre le mainstream!
Et je crie avec lui! Je crie! Applaudissez la mort! Et je me serais levé avec lui, je vous jure, je me serais levé! J'aurais hurlé comme un chacal à la lune et aux étoiles, aux savonnettes que Tamara a laissées sur le rebord de la baignoire de la salle de bain, à ses chaussons roses cachées sous le lit, aux spaghettis bolognaises que nous préparions ensemble le soir. J'aurais hurlé, oui, si je n'avais pas eu sous les yeux la petite naine qui se bouchait les oreilles comme la statue du commandeur.
Stop, stop, stop. Sur ma vie, Netanya, vous êtes trop fort.
Et là, j'en prends conscience d'un coup. Je vois cet homme-là qui s'agite dans tous les sens. Bientôt, il ne sera plus là.
Bon. Vous voulez que je vous raconte une histoire, hein ? L'histoire de mon premier enterrement. Et ben voilà, c'est l'histoire d'un gosse d'à peine 14 ans, Dovic, hein, Dovalet, le petit chéri à sa maman. Ce Dovalet, c'est une puce, hein, il a la taille d'une cacahuète. Ouais, dans la famille, côté paternel, c'est comme ça, les hommes, ils atteignent leur développement maximum vers l'âge de 13 ans, hein, pour leur bar mitzvah, et après, hop, stop, c'est fini. Fini pour la vie. À mon avis, c'est pour ça que le docteur Mengele, il a fait des recherches sur nous. Hein. On a suscité la curiosité de cet homme introverti, raffiné. 20 membres au moins de la famille de mon père ont été sélectionnés pour passer entre ses mains. Le seul qui l'a raté, c'est papa, parce que ce bâtard est parti en Palestine 1 minute avant le début du spectacle. Mais ma mère, elle est tombée sur lui. Et pas qu'un peu, tu veux dire, sur le docteur Mengele. Toute sa famille, elle a défilé dans son cabinet. En un sens, c'est un petit peu notre médecin de famille, pas vrai? Non, c'est pas ça. Pensez seulement à quel point le bonhomme, il était débordé. On venait chez lui de toute l'Europe. On s'entassait dans les trains pour aller jusqu'à lui. Juste pour un bref entretien. Voilà, là, toi à droite, toi à droite, toi à droite, ah non, toi à gauche, toi, 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 ah non, toi à gauche. Et maintenant, imaginez le petit Dovalé, un garçon un peu bêta, une tête à claque, des lunettes avec des verres plus épais que des culs de bouteille, un short avec une ceinture qui se boucle aux environs des tétons. Mon père, il achetait toujours des vêtements 4 tailles au-dessus, il formait encore de grandes espérances pour moi. Et maintenant, d'un seul coup, vous le retournez et vous le mettez sur les mains. Vous y êtes ? Vous avez compris le truc ? Je me baladais partout comme ça, sur le chemin de l'école, avec mon cartable pendu par devant, ou dans la maison, jusqu'au retour de mon père. Je sais pas d'où ça m'est venu. Si, je sais. Un jour, j'avais fait un spectacle pour ma mère, ça a commencé comme ça.
Tu as monté des sketchs pour elle?
Soir après soir, elle s'asseyait pour me regarder, la clope au bec, avec son peignoir blond, sa serviette nouée sur la tête. Elle avait l'air d'une princesse. Je n'avais rien que pour moi, jusqu'à ce que mon père rentre. Et une fois, au milieu des sketchs, j'ai posé mes mains par terre. J'ai projeté mes pieds vers le ciel. Bon, je suis tombé, j'ai recommencé, jusqu'à ce que j'atteigne l'équilibre. Et là, ma mère, elle a applaudi. Elle a éclaté de rire. Ouais, je l'ai entendu rire. Et ensuite, j'ai passé ma vie à essayer de la faire rire. Là, je continue. Sûr ? Ok. Alors imaginez notre petit Dovino national, un boutonneux, un vrai feu d'artifice avec la voix qui a pas encore mué. Voilà qu'un jour, c'est au tour de sa classe de partir à la Gadna, dans le sud, dans un bled nommé Perora, quelque part près d'Eliade. Vous rappelez les gars, hein, vous rappelez ces camps-là, hein? Les camps de jeunesse, hein, les gauchistes, ils ont dû les fermer maintenant, hein, hein, ils doivent. Hein, les beaux jours de la Gadna. Allez, allez, on part en excursion. Allez, Netanya! Roulez jeunesse, Dovalé, deuxième tour de piste. Dis donc, médium, t'as le pouvoir de mettre en relation avec moi à cet âge-là?
Non, je ne pratique que dans mon club communal et je n'invoque que les gens qui sont morts.
Ah, ça me va, ça me va. Dis-moi, mes blagues, elles te font rire?
Non.
Non? Bah, attends, stop, stop, stop. Elles sont pas drôles, mes blagues?
Tes blagues sont mauvaises?
Elles sont mauvaises parce qu'elles font pas rire ou mauvaises parce qu'elles sont méchantes?
Les deux.
Mes blagues, elles font pas rire et elles sont méchantes?
Oui.
C'est ça un stand-up.
Alors c'est pas bien.
Pourquoi t'es venue alors?
Parce que quand on m'a parlé de stand-up dans mon village, je croyais que c'était du karaoké.
Bon bah maintenant tu t'es renseignée, tu peux partir, hein.
Je préfère rester.
Bah pourquoi? Ça t'abuse pas? T'es malheureuse ici?
C'est vrai.
Allez, je t'en prie, va-t'en. Va-t'en. Ça va se corser maintenant pour toi.
Je veux rester.
Ok. Bah, je t'aurais prévenu, poupée. Tu viens pas te plaindre après coup. Allez, les dernières. Donc, j'avais jamais quitté la maison, hein, j'avais jamais été séparé de ma famille. Il est 5h du matin, il fait nuit. Les parents nous amènent à Lumsklattplatz, hein, comme au ghetto de Varsovie. Non, je déconne. On fait l'appel et puis on nous embarque dans des camions. Et là, au bout de 10 heures de voyage, on arrive enfin dans un trou près de la mer morte. On nous répartit dans des tentes, 10, 20 par tente. Peut-être. Et la médium, écoute-moi, je vais essayer d'entrer en communication avec mon défunt moi. Je vois des montagnes, je vois le désert, je vois des baraquements, des tentes et le drapeau israélien. Là-bas, à Berora, on nous apprend que tout ce qu'un jeune hébreu et fier de l'être doit savoir. Et le soir, fiesta, feu de camp, chant au cœur, extinction des feux. Moi, j'étais chargé d'éteindre les braises en pissant dessus. Et ils se barraient, les garçons, les filles, ouais. Et ça m'a fait encore rire d'ailleurs. Moi, évidemment, c'était ma fête. J'étais devenu le guignol de ma section. On se bidonnait avec moi, on me traitait avec la déférence voulue. J'étais propulsé de l'un à l'autre comme un ballon. Hein. J'étais petit, j'étais léger, même pour mon âge. Au camp, ils ont fait de moi la mascotte de toute la section. Doubi, leur fétiche, ils m'appelaient. Avant chaque activité, chaque exercice de tir, on s'amenait pour me donner une petite tape comme ça sur la tête, hein, gentiment, hein, affectueusement. Hein. Bambino aussi, on appelait là-bas. Hein. Pour la première fois, j'avais un nom normal, quoi, pas Rasmoquette ou Vieux Chiffon. Et alors, mais quelle coïncidence, dites donc, comme le monde est petit. Même l'honorable juge Avishai Lazar était là-bas avec moi.
On y est. J'attends depuis 15 jours, depuis notre conversation téléphonique, qu'il en vienne là et qu'il m'attire avec lui dans ce gouffre. De Vallée était arrivé à Birora avec les garçons de son collège et moi avec ceux du mien. Nous nous sommes retrouvés à Birora dans la même section et dans la même tente. Et voici ce qui s'est passé là-bas. Je suis arrivé à la base et je suis entré dans ma tente pour déballer mes affaires. J'ai vu alors trois grands garçons costauds qui se lançaient un sac à dos de l'armée avec à l'intérieur un enfant qui hurlait comme un fauve. Je me rappelle m'être planté à l'ouverture de la tente sans bouger. J'étais fasciné par le spectacle. Les trois adolescents étaient en maillot de corps et leurs biceps ruisselaient de sueur. L'enfant, à l'intérieur de la musette, avait cessé de brailler et il s'était mis à pleurer. Et eux ricanaient et continuaient à se l'envoyer avec force et entrain. Alors j'ai posé mon sac à dos sur un lit près de l'entrée de la tente. Je m'y suis assis, tournant le dos à la scène. Je n'ai pas osé intervenir, mais je suis resté. J'étais incapable de quitter la tente. À un moment donné, j'ai entendu un choc. J'ai bondi. Le sac à dos avait échappé à l'un des lanceurs et était tombé sur le sol bétonné. Alors le sac s'est ouvert. Et on a surgi une tête toute frisée aux cheveux noirs que j'ai immédiatement reconnue. Les adolescents ont surpris l'expression sur mon visage. Ils se sont moqués de moi. Et De Vallée a suivi leur regard jusqu'à ce qu'ils m'aperçoivent et me dévisagent. Sa figure était trempée de larmes. La rencontre nous dépassait. Nous n'avons pas échangé le moindre signe de reconnaissance, même en négatif, nous étions miraculeusement coordonnés. Son cri m'est resté dans la gorge, bloqué. Après quoi, j'ai relevé la tête et puis je l'ai détourné, j'ai quitté la tente, tandis que leur ricanement accompagnait ma sortie, et je n'ai plus pensé à De Vallée. Il avait vu juste. Je l'avais gommé.
Un jour, on est assis en cercle sous un soleil de plomb, la seule ombre est fournie par les rapaces qui attendent dans le ciel qu'on crève enfin. Et brusquement, une soldate déboule de la baraque du commandement, une sergente je crois, boum boum, elle court, petite mais considérable, question poids, l'uniforme à la limite d'exploser avec deux petites jambes de gazelle, comme ça. Et avant même que l'instructeur ait eu le temps de nous crier garde à vous, elle demande essoufflée, Grinstein Dove, il est dans cette section? Et moi, mes frères, je flaire tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Et toute la classe, hein, tous mes bons copains, et tous ils montent du tout, c'est lui, comme pour dire, vas-y, prends-le lui, pas moi. Sympa les copains, si j'avais dû passer avec eux la sélection d'Auschwitz, ça aurait pas été le pied. Et la sergente, elle dit, tout de suite avec moi chez le commandant. Moi, je me mets à piailler avec une voix de châtrée, mais non, j'ai rien fait, madame, j'ai rien fait. Et tous ils crient, vas-y, collez-lui une punition pour toutes les fois où il s'est gratté les couilles, pour tous les pets qu'il a lâchés sous la tente. Bref, je secoue le sable collé à mon derrière, je tire ma révérence, et l'accompagne, et j'emboîte le pas à la soldate. J'ai déjà l'intuition que ça y est, je marche seul. Je sais déjà que tout est fini, que je suis foutu. À cet instant, j'ai eu comme un pressentiment que je reviendrai pas ici. Que pour moi, là, tout ce truc-là qu'on appelle l'enfance, c'était terminé. Tiens. Que la soldate est en train de me dire quelque chose, elle marche, elle parle vite, elle m'explique que je dois rentrer à la maison immédiatement parce que le temps presse et que je dois assister aux obsèques.
à 16h. Mais d'où elle sort cette histoire d'obsèques? J'avais jamais été un enterrement. Nous, on était une famille nucléaire, synthétique, réduite à elle-même. Hein. Une mère, un père, un fils. Bon, quelque part, j'avais bien conscience que mon père, c'était pas un perdreau de l'année. Et maman non plus, même si elle était beaucoup plus jeune que lui. Elle traînait derrière elle une jolie collection de casseroles. Pensez, elle était restée presque 6 mois dans la niche d'un wagon où il n'était pas possible de s'asseoir, ni de se tenir debout. Une sacrée histoire, ça. Et en plus, elle avait sur les deux poignets une fine cicatrice, coquette, une broderie de veine que les couturières hors catégorie de l'hôpital Bikurolim de Jérusalem lui avaient concoctée. Mais bon, en dehors de toutes ces petites histoires hein, qu'on trouve certainement dans chaque famille normale, tout allait plutôt bien, entre deux, trois. Alors, d'où elle sortait, cette histoire d'obsèques? D'où? Et donc, je marche lentement, de plus en plus lentement, en ressassant, hein, je comprends pas. Et soudain, je fais une cabriole et je me mets sur les mains. Et je marche, la tête en bas. Le sable, il est comme du feu, il me brûle les paumes des mains, mais ça fait rien. Au contraire, ça m'empêche de penser. J'avance vite, je cours. Qui pourra m'attraper quand je suis à l'envers? Dans cette position, je suis invulnérable. Devant moi, des marches en bois donnent accès au bureau du commandant. Au-dessus de moi, un soleil écrasant et des vautours. Autour de moi, 7 États arabes assoiffés de sang. Alors je me relève et j'attends. La porte de la baraque du commandement s'ouvre et une paire de souliers rouges, avec dedans un adjudant-chef, descend les marches vers moi. Il me fait « Viens mon petit, viens, toutes mes condoléances. » Et il me serre la main. Mon Dieu, il y a l'adjudant-chef qui me serre la main. Pour un peu, il me donnerait du hey, « Merci d'avoir choisi notre base, mon petit. On sait que tu aurais pu en choisir une autre hein, pour devenir orphelin. » Dans la fourgonnette, déjà plein gaz au point mort, le chauffeur à cran et à pied au plancher me fusille du regard, je m'assois à côté de lui. L'adjudant lui fait hey, « Hé, tu vois, ce chouette gamin, tu ne lâches pas d'une semelle jusqu'à ce que tu l'aies déposé à la gare routière de Beersheba et jusqu'à ce que des employés de l'état-major le prennent en charge et l'emmènent à Jérusalem, compris ?» Et là, il me regarde, l'adjudant-chef. Et moi, je pense, là, il va le dire, là. Là, on y est, là. Il va le dire. Et je me prépare déjà. Tout mon corps serait dit pour amortir le choc. Et l'adjudant-chef met sa main sur sa tête en guise de kippa et me dit juste que le ciel t'apporte la consolation. Le Tout-Puissant vous consolera entre les affligés de Sion et de Jérusalem. Et il frappe de la main la carrosserie comme pourrait prôner un cheval. Le chauffeur répond « Amen », il appuie sur le champignon et on part.
Il va y avoir un stand-up ce soir!
Eh, t'as plus, je connais, là, tes blagues, elles sont passées où?
On est là pour les blagues!
Arrêtez, détendez-vous un peu, c'est lui la bonne blague, c'est tout!
On va arrêter de se marrer, nous! Ah, continue ce stand-up, là!
Ouais, c'est pas que des blagues de la Shoah,
on est venu pour rigoler et il nous fait la journée de la Shoah!
Fais-nous rire! Fais-nous rire, on a fait pour ça!
Laissez-le raconter son histoire!
salle, les gens se taisent et me fixent, et je reste planté là. Et j'ai vraiment conscience d'être complètement ridicule. Mais je continue. Et alors, tout mon être retrouve une sensation oubliée. La sensation d'être. Laissez-le raconter son histoire.
Pas de problème, monsieur le juge, votre honneur. J'approuve. Je respecte votre souhait, mais je voudrais bien qu'il m'explique quel lien il y a entre toute cette confession et les 250 séquelles que j'ai jetées par la fenêtre pour cette soirée de merde. Ça, c'est pas répréhensible. Votre honneur, vous ne flairez pas la publicité mensongère.
Écoutez bien, Tony Soprano, là. Sorbet citron. Là. On en était juste au préliminaire. Là. Ça commence seulement maintenant. Donc on roule en voiture. Et tout à coup, je vois mon papa qui se présente à mon esprit. Bonne gens de Détania, je suis assis dans une fourgonnette en plein désert. Et je vois soudain, comme dans un film de science-fiction, en face de moi, mon papa en chair en os. Et ouais, tout à coup, c'est elle que je vois, ma mère. Tout à coup, c'est elle. Et je la vois comme quand on l'a croisée dans la rue à Jérusalem, avec son châle, avec ses bottes, la tête baissée. On ne se rendait pas compte à quel point elle était belle. C'était la plus belle femme du monde. Maintenant, bon, c'est le tour de papa. Ah, et non, maman. Elle disparaît comme si elle avait renoncé, désespérée, peut-être parce que je ne pensais pas suffisamment à elle. Viens, maman, viens. Accroche-toi. J'avais la tête en feu à cause de mes parents. Elle tirait d'un côté, lui de l'autre. Et plus on approchait de Jérusalem, plus il devenait fou. Si je me bouchais les yeux, il rentrait par les oreilles. Tu me suis, super-héros, là ?
Oui, bah, tu sais ce qu'il te dit, le super-héros, il en a marre. Alors moi, je m'en vais, j'en ai assez. Ma patience, ça suffit. Hein ? On est là pour se vider la tête. Et lui, il nous fait un truc sur le Yom Kippour. Non, mais ce type n'est pas normal. Il n'est pas normal. Hein ? Il se moque de nous. De partir, vous aussi.
Non, je le connais, il fait semblant.
Adios, amigos. Je te souhaite une bonne nuit de cristal. Donc on roule toujours. Après quelques kilomètres, le chauffeur me lance « Dis donc, bonhomme, t'as peut-être pas la tête à rire en ce moment, mais si malgré tout t'as un peu envie d'entendre des blagues, ça peut te faire du bien, va savoir. » Quel bien, je me dis. Alors le chauffeur, les deux mains posées sur le volant, il insiste, vas-y, lance un sujet, j'ai gagné un concours de blagues. Et je vois bien qu'il plaisante pas, là. Hein. Ce que tu veux, vas-y, la première chose qui te vient à l'esprit, ta belle-mère, la politique, les Marocains, les avocats, les travelots, les animaux. Maintenant, comprenez-moi bien, mes frères, regardez-moi, hein. Concentrez-vous un instant sur mon cas. Je suis coincé pour plusieurs heures avec ce dingue qui me conduit à un enterrement et il s'apprête à me raconter des blagues. Oui, vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça.
Oui, ça fait une heure, ça dure, maintenant, ça suffit, hein. Merci bien.
Pour la première fois, je commence à ressentir ce que ça signifie être orphelin, sans personne pour veiller sur toi. Le véhicule se transforme en fournaise, la sueur me coule dans les yeux, j'entends ma mère qui me chuchote à l'oreille, sois gentil avec lui, hein. Souviens-toi que la vie, elle est brève et il faut rendre agréable le peu de temps dont nous disposons. Et là, tout à coup, j'ai froid. En plein sirocco, je suis frigorifié. Je tremble. Je claque des dents. Alors, tout à coup, je crie au chauffeur, des animaux. Et le chauffeur, il répète, ok, des animaux, reçu 5 sur 5, ok. Alors, voilà. Il y a Toto, il se balade dans les bois. Soudain, il voit un animal inconnu. Il lui demande, animal, qui es-tu ? Et l'animal, il répond, « Je suis un chien-loup. »« C'est quoi, un chien-loup ?» il dit Toto. « C'est simple, » répond l'animal. « Mon père, c'était un chien, et ma mère, c'était une louve. »« Donc moi, je suis un chien-loup. »« Ah, ok, » il dit Toto. Il continue sa promenade, il tombe sur un éléphant. « Bonjour, l'éléphant, » il dit Toto. « Bonjour, Toto, » il dit l'éléphant. Et il va un peu plus loin, il croise un renard. « Eh, bonjour, renard !» Bonjour Renard, bonjour Toto. Ça. Et il continue, et là il aperçoit un autre animal inconnu qui vient à sa rencontre. Hé, hey, l'animal, qui es-tu ? Demande Toto.
Un moustique tigre, y répond l'animal.
Et là, Toto, il dit, non, là, je marche pas. Non, je marche pas. Ben voilà, vous avez ri, Netanya, bravo. J'en ai une autre, d'ailleurs, à mourir de rire, c'est le chauffeur qui dit ça. C'est un cheval entre dans un bar, et il demande au barman une bière pression. Le barman, il le sert. Le cheval, il boit. Et il commande un whisky. Il s'enfile son verre, puis après, il demande de l'arak, il boit. Et puis une vodka, et puis une autre bière, et une bière. Et pendant que le chauffeur me joue les mille et une nuits, tout à coup j'entends une voix lointaine qui vient du désert. Pas facile à discerner. Ça ressemble un peu à la comptine chantée par maman quand j'étais tout petit, quand j'avais 3-4 ans. D'où vient-elle ? Pas de moi, je vous jure, ça fait des lustres que je l'ai oublié, cette berceuse yiddish. Elle me la chantait quand je réussissais pas à m'endormir ou alors quand j'étais malade. Elle me prenait dans ses bras et elle me berçait. Sans regarder, il me balance, mais en fait, tu m'as pas dit encore qui. Dis-moi au moins, c'est ton père ou c'est ta mère. Ça c'est drôle, non? Non? Vraiment pas. Là, je vous fais plus rire, là, hein, ça marche plus. Hein.
La tête inclinée sur sa poitrine, l'un de Valet soliloque en silence. Et puis, il se pétrifie, ne bouge plus. Et tout à coup, le poing vole si vite que je distingue à peine la main. J'entends le coup sur les dents de Dovalé qui s'entrechoque et toute sa figure se détache presque de son cou. Il se frappe, les mains grandes ouvertes, les doigts raidis, on dirait un match de catch. La bourrasque humaine continue à se déchaîner pendant une vingtaine de secondes, puis il cesse d'un coup. Les spectateurs sont atterrés, ils se lèvent, ils repoussent leurs chaises, ils se dirigent vers la sortie. Bientôt, il n'y a presque plus personne. Dovalé s'élance vers un tableau noir. Dans sa main, la craie vole comme la baguette d'un chef d'orchestre exalté. 5, 8, 10, au moins 10 tables ont déserté. Il repose la craie, tourne ses yeux vers la salle dépeuplée. Et là, je sens que Dovalé fait ses adieux. Je sens qu'il raconte ses blagues pour la dernière fois. Une ombre venue de l'intérieur passe lentement sur son visage et à cet instant précis, une pensée m'envahit, un vœu, que Dovalet puisse lire ce que j'ai l'intention d'écrire sur cette soirée, qu'il ait assez de temps pour le lire, que cette lecture l'accompagne aussi là-bas. Quelle que soit la forme qu'il prenne, que ce texte continue d'exister même là-bas. Quand Dovalet relève le visage vers le projecteur, la lumière crée une illusion. Un gamin de 57 ans se reflète dans un vieillard de 14.
J'en étais où, Joseph, là ?
Fourgonnette.
Fourgonnette, ouais. C'est vrai qu'on commande une sténo la prochaine fois pour me rappeler ce que je dois dire. C'est presque fini, rassurez-vous, on voit le bout du tunnel. Et voilà, maintenant c'est de nouveau ma mère qui me vient à l'esprit. Elle est assise dans la cuisine avec un tas de barres brisées. Je suis assis près d'elle avec mes leçons, tout est normal. Elle passe, elle repasse l'aiguille. À un moment, elle s'arrête. Elle s'égare. Elle ne me voit plus. Ni personne. À quoi pense-t-elle quand elle est dans cet état ? Je ne lui ai jamais posé la question. Qu'est-ce que je sais d'elle ? Presque rien. Ses parents étaient riches, elle était une excellente élève, elle jouait du piano. On parlait déjà de concerts. Et puis, plus rien. Au sortir de la Shoah, elle avait 20 ans. Pendant 6 mois, pendant la guerre, elle était restée cachée dans un train. 3 cheminots polonais l'avaient planquée dans une sorte de niche. C'était un train qui roulait que sur une seule ligne. Il veillait sur moi à tour de rôle, m'a-t-elle dit avec un rire amer que j'avais jamais entendu. J'avais peut-être 12 ans, on était tous les deux seuls à la maison, elle et moi, je faisais mon spectacle. Là, elle m'a interrompu pour me raconter ça d'une traite. Sa mâchoire s'est tordue plusieurs secondes tandis qu'une partie de son visage partait sur le côté. Elle m'a dit, au bout de 6 mois, ils ont décidé qu'ils en avaient assez d'elle. Allez savoir pourquoi. Et un beau jour, au terminus, ces salopards l'ont jetée sur la rampe d'Auschwitz. Je continue ou... Donc le chauffeur me dépose devant chez moi, à Romena. Mais à peine je suis sorti de la fourgonnette qu'il y a une voisine qui me houspille par la fenêtre. Hey, Dovalé, qu'est-ce que tu fais? Va vite à Givatchol. Peut-être que tu arriveras juste à temps. De Romena au fil à Givatchol, la distance n'est pas grande, peut-être un quart d'heure tout au plus, une course folle, sans frein, sans feu rouge. Je me souviens que le silence régnait dans le véhicule, personne ne mouffetait. Et moi, dans mon cœur tout noir, j'ai commencé à faire mes comptes. Ouais, c'est comme ça. Le temps était venu de faire mes comptes. Des comptes mesquins, nauséabonds. Je suis un vrai fils de pute, souvenez-vous. Inscrivez-le sur votre tablette, votre honneur. On pourrait l'ajouter au moment du verdict. Depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, je suis resté un fils de pute. Un gamin d'à peine 14 ans avec une âme de merde, assis dans cette fourgonnette à faire des comptes sordides, les plus pourris qu'un être humain a pu faire dans sa vie. Vous aurez du mal à imaginer tout ce que j'ai introduit dans ces comptes, les choses les plus minables, les plus répugnantes, je les ai fait tenir dans ces quelques minutes qu'a duré le trajet de la maison jusqu'au cimetière. Des comptes d'épicière concernant sa vie à lui, mon père, et sa vie à elle, ma mère. J'ai appris ce que vaut un homme. Ce que c'est un homme. Mon cerveau s'est mis à évaluer là les actifs, là les passifs. J'aurai à traîner cette chose-là toute ma vie. Et me suivra toute mon existence. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a fini par arriver à Givatchol. C'était comme une usine, travailler à la chaîne, 3 enterrements à l'heure. Tac, 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 tac. Allez donc trouver le vôtre. Le chauffeur, il m'a dit quelque chose du genre « Allez, sois courageux, mon garçon. » Et moi, honnêtement, ça m'a fait la peine de me séparer de lui. Maintenant, restez avec moi, Netanya. Me lâchez pas. Me lâchez pas la main. Pas une seconde. me rappelle que j'ai marché lentement, comme sur des éclats de verre. Seuls mes yeux remuaient convulsivement, je ne voyais pas mon père, je ne voyais pas ma mère. Soudain, s'amène un grand type, un employé des pompes funèbres, qui me demande « Hey, c'est toi l'orphelin ?» L'orphelin Greenstein, où t'étais ? On n'attend plus que toi. Il m'attrape par la main, il me tire derrière lui, tout en marchant, il me colle une kippa en carton sur le crâne. Il m'a conduit jusqu'à une porte de bâtiment en pierre où il m'a fait rentrer. Moi, j'ai fermé les yeux. Je pensais que peut-être papa et maman seraient à l'intérieur, à m'attendre, hein, qui m'appellerait par mon nom. Et j'ai rien entendu du tout. J'ai rouvert les yeux, ils n'étaient pas là. Je me suis retrouvé dans une petite pièce avec deux grands lavabos sur le côté, une espèce de long chariot avec un paquet posé dessus, enveloppé d'un tissu blanc. Et j'ai immédiatement compris qu'il y avait quelqu'un là-dedans, un être humain. Et le type m'a dit « Demande pardon ». Moi, j'ai pas bougé. Le type, il m'a planté son doigt dans l'épaule. « Demande pardon », il a répété. Moi, j'ai répondu « Mais à quoi ?» À un moment, j'ai pensé que le paquet n'était pas très long. Alors peut-être c'était pas maman, hein. Peut-être c'était pas maman. Peut-être j'avais eu tout simplement peur pour rien. Et là, à cette pensée, j'ai ressenti un bonheur, mais inouï, que j'avais jamais connu, ni avant, ni après. Un bonheur, mais dingue, comme si moi aussi, à cet instant, j'avais échappé à la mort. À nouveau, il a pressé mon épaule, et ben vas-y, demande pardon. Moi, je lui ai redemandé, mais à qui ? Alors, tout à coup, il a eu un déclic. Il a arrêté de me planter son doigt dans l'épaule et il m'a demandé « Tu sais pas ?» Moi, j'ai répondu « Ben non. » Et lui, stupéfait, « On t'a rien dit ?»« Ben non. » Il s'est penché vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il a murmuré avec délicatesse « C'est ta mère qui est là. »
Un ange passe, et puis un autre. La serveuse commence à ranger les chaises. Nous ne sommes plus que trois. La petite dame, debout à côté de sa chaise, s'appuie sur une jambe et serre son sac rouge des deux mains. Elle est si minuscule. Elle attend, elle regarde de Vallée, pleine d'espoir. Et là, je pense à Euryclée, la servante d'Ulysse.
Allez, bonne nuit, ma puce. Reste pas là. Va. Elle repart pas chez toi à pied. Le coin, il est pas sûr. Yoav, tu peux appeler un taxi pour la demoiselle. Tu mets sur mon compte si jamais il reste encore un petit peu de sous.
Il l'embrasse sur la joue et il fait un pas en arrière, mais elle reste résolument sur place. Il se rapproche à nouveau d'elle et l'embrasse sur les lèvres.
Merci, ma puce. Merci pour tout. Je crois que t'as pas idée à quel point.
Elle répond avec le sérieux qui la caractérise.
Je t'en prie.
Et elle s'en va.
Et c'est pourquoi, sache ceci, je te condamne en cet instant à la noyade.
Il cite les mots du père à son fils dans le verdict de Kafka. Il lève son thermos au-dessus de sa tête et s'asperge avec les dernières gouttes et quelques-unes m'éclaboussent au passage.
Avishai, t'as encore une minute ?
J'ai même une heure.
T'es pas pressé de rentrer ?
Je suis pressé de rentrer nulle part.
Juste le temps que l'adrénaline retombe un petit peu. J'ai vu que t'as pris des notes.
J'ai pensé que j'allais essayer d'écrire quelque chose.
Vraiment ?
Je te le donnerai quand j'aurai fini.
Quelques mots resteront donc après moi, hein, comme la sûre après la chute d'un homme. C'est drôle, hein, je suis pas quelqu'un qui éprouve de la nostalgie, pour personne d'ailleurs. Ce soir, je sais pas, pour la première fois depuis qu'elle est morte, il y a eu des moments où J'ai senti sa présence, mais pas seulement comme une mère, comme un être humain. Un être humain qui avait été ici. Là, sur cette terre.
Et si je dois raccompagner chez toi?
Ok, ok, si t'insistes.
Bon, bah écoute, on y va alors, prépare-toi. Moi, je t'attends dehors.
Attends, une seconde. Tu veux bien me faire le public encore? Juste une petite minute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ville de Césarée. C'est tout ce que j'avais à vous donner, braves gens. Hein. Il n'y a plus de Dovalé pour aujourd'hui, non? Et d'ailleurs, demain non plus. Fin de partie. Alors, vous êtes priés de vous disperser dans le calme en suivant les instructions des ouvreuses, des agents de sécurité. On me signale qu'il y a la queue à la sortie. Hein. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, les gars.
C'était « Un cheval entre dans un bar » de David Grossman, traduit de l'hébreu par Nicolas Veil et publié aux éditions du Seuil. Avec Dovalé G, Jérôme Kircher, le juge Avishai Lazard, Wajdi Mouawad, la petite dame Mathilde Ménétrier. Et pour le public, Johanna Nizar, Anise Elberger, Marc Bodnar, Manuel Lelièvre, Quentin Barbossa, Camille Dagen, Hélène Morelli, Jean-Céric Colleno Desmelonaer, Zachary Laurent, Clara Breteau, Maxi Le Dévea, Vincent Pavageau, Camille Protard, Thomas Zuani. Musique originale, créée et interprétée par Sylvain Cartini, Joseph Dahan, Mathieu Boer. Bruitage, Sophie Bissens. Lumière, Stan Valette. Équipe technique de Radio France, Benjamin Perreux, Pierre-Henri, Tanguy Le Cormeau. Assistante à la réalisation, Clémence Crous. Adaptation et réalisation, Blandine Masson. Remerciements à Laurent Matignon et aux équipes techniques du Théâtre de la Colline. Remerciements à Arnaud Antolinos et Florence Thomas et à toutes les équipes du Théâtre National La Colline. Remerciements à Anne Freyer pour les éditions du Seuil. Enregistré en public les 9 et 10 septembre 2017 à La Colline Théâtre National, dans le cadre de la manifestation Dans les yeux de David Grossman, une coproduction France Culture, La Colline Théâtre National.